Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La situation s'aggrave chaque jour en Ukraine, c'est ce que souligne le président français. L'Ukraine refuse les couloirs humanitaires vers la Biélorussie et la Russie proposés par Moscou pour l'évacuation des civils de villes bombardées, une annonce de la vice-première ministre ukrainienne. En France, Emmanuel Macron dénonce le cynisme moral et politique de Moscou. L'accueil des réfugiés ukrainiens dans les pays de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notre invité sera Nabil Boukili, député belge, membre du Parti du Travail de Belgique. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été arrêté ce lundi matin à son domicile de Jérusalem, une annonce de son comité de soutien. Le ministre algérien des Affaires étrangères est à Beyrouth, Ramtam Lamamra est arrivé ce dimanche soir dans la capitale libanaise pour une visite officielle de 2 jours. La mort mercredi dernier de maître Olivier Cousy, bâtonnier de Paris de 2020 à 2022, a suscité une grande émotion, notamment chez ses confrères. Ses obsèques auront lieu ce mardi. Nous écouterons dans votre édition maître Sarah Saldman ainsi que 2 enfants de maître Olivier Cousy, Sybille Cousy et Nicolas Cousy. Ils sont 12 candidats à la présidentielle des 10 et 24 avril prochains en France. Le président du Conseil constitutionnel a proclamé à la mi-journée la liste officielle des candidats. L'Ukraine refuse les couloirs humanitaires vers la Biélorussie et la Russie proposés par Moscou pour l'évacuation des civils de villes bombardées. Une annonce ce lundi de la vice-première ministre ukrainienne pour qui cette option n'est pas acceptable. Selon elle, les civils appelés par les Russes à être évacués des villes de Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy n'iront pas en Biélorussie pour ensuite prendre l'avion et aller en Russie. L'initiative russe a aussi été dénoncée par l'Elysée. Emmanuel Macron dénonce le cynisme de Vladimir Poutine qui propose des couloirs humanitaires aux habitants de plusieurs villes d'Ukraine pour les amener en Russie. Le président français qui souligne que la situation s'aggrave chaque jour en Ukraine. L'Europe promet sa protection aux réfugiés ukrainiens. Ils sont plus de 1 500 000 à avoir quitté leur pays suite à l'invasion russe le 24 février dernier. Entretien avec Nabil Boukili, député belge et membre du Parti du Travail de Belgique.
On voit le désastre que ça fait sur le terrain et aussi le désastre humanitaire que ça provoque. Et je pense que la première chose, c'est d'abord avoir une condamnation ferme par rapport à cette guerre et faire le tout pour revenir à la table des négociations et à un cessez-le-feu immédiat. Maintenant, sur la question des réfugiés ukrainiens, je pense que face à cette situation, l'ensemble des pays européens doivent mettre en place un processus dans lequel il y a une gestion de cette vague des réfugiés de manière humaine et de manière accueillante. On ne peut pas se limiter à mettre cette responsabilité sur les pays frontaliers à l'Ukraine. Je pense que l'ensemble de l'Union européenne doit prendre sa part de responsabilité à ce niveau-là, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique. D'ailleurs, ici en Belgique, par exemple, il y a des initiatives qui ont été mises en place au niveau des municipalités pour que des familles puissent accueillir des réfugiés. Mais je pense qu'il faut quelque chose de structurel et ça serait peut-être l'occasion de revoir le système d'accueil européen qui a montré toutes ses failles et toute son inefficacité face aux réfugiés, en premier lieu les réfugiés syriens, et puis après les réfugiés afghans. Je pense que là, ça serait peut-être l'occasion d'avoir un changement structurel pour avoir une politique d'accueil plus humaine et plus efficace, ce qui n'a pas toujours été le cas ici en Europe.
En Belgique, le porte-parole de l'Office des étrangers a indiqué qu'il a fallu agir dans l'urgence pour aménager des locaux qui sont aujourd'hui disponibles.
Oui, c'est ça. Il y a des locaux qui ont été mises à disposition, mais aussi il y a eu un appel à des privés, enfin à des familles, à des personnes pour accueillir chez eux des personnes réfugiées. Donc il y a, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui cet accueil repose principalement sur la bonne volonté des citoyens d'accueillir, et ça montre en fait le manque de structure. Le fait qu'on a ouvert des centres en urgence démontre qu'on n'a pas une structure qui est prête pour ce genre de situation, et que agir dans l'urgence, et même les centres qui ont été ouverts, je pense pas qu'ils sont suffisants s'il n'y a pas la participation citoyenne et qui est quand même assez forte. Donc moi j'espère que, en tout cas cette situation, malgré cette situation dramatique, mais en tout cas que ça puisse avancer la question des structures d'accueil pour les réfugiés et mettre en place des structures plus humaines qu'est-ce qu'ils ont été par le passé.
Sur le plan diplomatique, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les discussions, sur les pourparlers qui ont lieu entre les différentes parties ?
Sur le plan diplomatique, mais je pense qu'il faut absolument d'abord revendiquer un cessez-le-feu pour qu'on arrête de faire des victimes en Ukraine, de négocier un retrait des troupes russes de l'Ukraine pour réaffirmer la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le sens de revoir avec tous les partis du conflit, mais aussi des pays européens, les États-Unis, de se mettre autour de la table et de repartir sur l'accord de Helsinki de 1975, dans un cadre d'une sécurité collective en Europe, de repartir sur ces bases-là pour rediscuter la sécurité au niveau européen, en incluant la sécurité de la Russie aussi. Je pense que aujourd'hui, c'est le plus urgent à faire pour éviter une escalade dans le futur et pour éviter d'autres guerres européennes sur lesquelles, dans lesquelles il y a des pays où les frontières sont encore floues et sont d'éléments de discussion ou de tension sur le moment. On l'a vu par le passé, ces dernières années ici en Europe, et je pense qu'il y a 14 points en Europe où les frontières sont discutables. Donc je pense que le plus important, c'est de se mettre autour de la table pour trouver une solution diplomatique basée sur ces principes de sécurité collective et indivisible. Et qu'on sache que pour avoir la sécurité en Europe, pour avoir notre sécurité européenne, ça passe aussi par la sécurité des Russes. Et, ceci dit, j'aimerais bien quand même le répéter pour que ça soit clair, peu importe les causes qui ont amené M. Poutine à envahir l'Ukraine, rien ne justifie l'agression militaire. Ça doit être clair. Hein. Aujourd'hui, c'est M. Poutine qui est le premier coupable de la guerre qui se mène en Ukraine. Ceci étant dit, pour répondre à ce problème, parce que M. Poutine, je pense qu'il a une vision quand même assez nationaliste et chauviniste de la grande Russie, où il fait allusion à la Russie du Tsar. Et d'ailleurs, dans son premier discours, il a fait quand même une bonne partie de ce discours pour réaffirmer la grandeur de la Russie tsariste. Et je pense qu'il, lui, il va dans cet objectif-là. Raison de plus de mener la discussion avec lui pour mettre un cadre sécuritaire sur les frontières de l'ancienne URSS, ce qui n'a pas été discuté à l'époque, et je pense que ça c'est un des origines du problème. Et de reprendre ces discussions-là pour garantir à la fois la sécurité du peuple russe, mais aussi la sécurité européenne, et discuter de la situation des pays qui sont frontaliers avec la Russie, quel statut on donne à ces pays-là. Et si par exemple on arrive avoir une Ukraine neutre, aussi que la sécurité de l'Ukraine soit garantie, que ce soit vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis d'autres pays. Donc je pense que cette guerre, en fait, nous démontre un peu la complexité de la situation et de tout le problème des frontières en Europe de l'Est après la chute de l'URSS, et que ça serait, que ça serait temps de prendre ce dossier en main et de le faire sérieusement et pas juste de manière bâclée comme ça a été fait par le passé, parce que ça peut engendrer des tensions par la suite.
Nabil Boukili, député belge, membre du Parti du Travail de Belgique. Le ministre français des Affaires étrangères a annoncé la fourniture à l'Ukraine de produits médicaux, notamment pour se prémunir contre le risque d'un accident nucléaire. L'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncin, a fait état de la fourniture dans les prochains jours de 2,5 millions de doses d'iode pour pouvoir parer à tout danger nucléaire. La Chine réaffirme son amitié avec Moscou. L'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, assure ce lundi le ministre chinois des Affaires étrangères. Il ajoute que les perspectives de coopération future sont immenses. Il précise que la Chine est prête à participer en cas de besoin à une médiation internationale pour résoudre le conflit en Ukraine. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été arrêté ce lundi matin à son domicile de Jérusalem. Une annonce de son comité de soutien. L'avocat de 36 ans, de père palestinien et de mère française, se bat pour ne pas être expulsé de Jérusalem, sa ville natale, et pour le retour de sa femme et de ses enfants interdits de territoire israélien. Le ministre algérien des Affaires étrangères est à Beyrouth. Ramtam Lamamra est arrivé ce dimanche soir dans la capitale libanaise pour une visite officielle de 2 jours. Au menu de ce déplacement, des entretiens avec le président de la République, Michel Aoun, le président du Parlement, Nabi Berri, le premier ministre, Najib Mikati, ainsi qu'avec son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. Les obsèques ce mardi en l'église Saint-Eustache à Paris de maître Olivier Cousy. La mort de l'ex-bâtonnier de Paris mercredi dernier a suscité une grande émotion, notamment chez ses confrères. Maître Sarah Saldman, avocate au barreau de Paris, est l'auteur avec Olivier Cousy de Tout pour se défendre, édité par Robert Laffont. Il était pour elle, nous dit-elle, un mentor. Je vous propose de l'écouter, ainsi que 2 enfants de maître Olivier Cousy, Sybille Cousy et Nicolas Cousy. Maître Sarah Saldman.
C'est vrai que monsieur le bâtonnier Olivier Cousy était pour moi vraiment un mentor et j'aimerais revenir sur notre rencontre, je dirais. Quand j'ai rencontré Olivier Cousy, je n'étais pas encore avocate, j'étais élève avocate et j'étais dans la campagne de l'équipe jeune pour l'élection au bâtonnat où il était en binôme avec maître Nathalie Roret. Moi, j'étais allée le voir avec ce projet de livre en lui disant « voilà, j'aimerais rédiger un livre avec vous ». Et il m'avait dit oui. Alors, c'est vrai qu'un candidat qui dit oui quand on lui pose une question, jusque-là, je n'étais pas très étonnée. Là où il m'a vraiment bluffée, c'est que je suis retournée le voir après la victoire et je lui ai dit, je me souviens, je suis allée à son cabinet chez Gilles Douaret Noël et je lui ai dit, est-ce que notre projet de livre tient toujours? Il m'a dit, mais évidemment, je vois pas pourquoi il tiendrait plus, on y va. Et là, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi vraiment quelqu'un de parole et surtout quelqu'un qui avait le souci de la transmission aux jeunes confrères. Je dois dire qu'à mon égard, et à l'égard d'ailleurs de tous les confrères, il a eu beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que Olivier Cousy, c'est l'élégance incarnée. Et ça s'est manifesté durant toute la rédaction du livre, où vraiment, il m'a fait cet honneur de me faire confiance. Mais aussi, je le rappellerai, au moment de la signature du contrat, enfin, du contrat d'édition, il était convenu qu'on partagerait les bénéfices en deux, ce qui jusque-là n'est pas très surprenant. Mais là, oui, il a surpris tout le monde, c'est que lui, il dit mais moi, en fait, je veux pas des bénéfices. Je veux vraiment que cet argent aille à une association. Il avait choisi Barreau de Paris Solidarité. Donc vraiment, je dois dire que c'est l'élégance. C'est vraiment un confrère qui va vraiment beaucoup nous manquer. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis aujourd'hui.
Merci. Maître Sarah Saldman, je me permets de vous donner la parole. Sybille Cousy, vous êtes l'une des filles de Maître Olivier Cousy. Cette élégance, cette bienveillance, ce sont bien entendu des mots très appropriés.
Oui, évidemment. Et surtout pour revenir sur ce que disait Sarah, le fait qu'il n'ait pas voulu récupérer les bénéfices du livre, c'est vraiment quelque chose qui pour lui, montrait l'importance de ce livre, du fait qu'il voulait rendre la justice accessible à tout le monde. Sans en récupérer des bénéfices, sans vouloir se faire connaître, tout ça, c'était vraiment très généreux de sa part, mais pour nous, c'était tout à fait normal, parce que c'est comme ça qu'il était dans la vie de tous les jours, et c'est comme ça qu'il voulait que la justice soit accessible à tous.
Quel mot est-ce que vous souhaitez utiliser aujourd'hui pour rendre hommage à votre père?
Je pense que c'était avant tout de la bienveillance, que ce soit avec ses enfants, que ce soit dans son métier, et aussi, je pense, assez important, c'est la liberté qu'il voulait transmettre aux personnes qui auraient pu avoir besoin de ce livre et même à nous, la liberté qu'il nous accordait dans nos études, dans notre vie personnelle, dans tout ce qu'on voulait.
Merci beaucoup, Sybille Cousy. Je propose à votre frère, Nicolas Cousy, d'intervenir. Nicolas Cousy, est-ce que vous pouvez nous faire part des mots que vous souhaitez employer concernant votre père, maître Olivier Cousy?
Sybille l'a très bien dit et c'est vrai que nous, dans cercle familial, privé et intime, on ne ressentait pas du tout l'importance de notre père dans son milieu professionnel. Il nous a à la fois préservé de ça, mais aussi je pense que c'était important pour lui d'avoir cette distance vis-à-vis de son travail quand il était avec nous pour être consacré à son rôle de père. Et je peux que rebondir sur ce que disait Sybille sur la liberté et la transmission. C'est vrai que avec nous, il s'est toujours attaché à nous laisser libres dans chacun de nos choix et la transmission, il a trouvé avec chacun des 5 enfants des moyens de transmettre ce qu'il avait appris. Ça a pu être la musique, la voile, le dessin, le droit pour Sybille. Mais à chaque fois, effectivement, il trouvait un canal de communication et d'éducation où il nous apprenait ce que lui savait et faisait ça avec beaucoup de passion.
Vous mettez tous les trois également en lumière une grande humilité.
Ouais, je crois que c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur, c'est que quand il s'adressait à quelqu'un, il se mettait jamais en avant par rapport à lui, il prenait le temps de l'écouter, il considérait qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre de quelle que soit la personne, et pas du tout écraser la personne ou influencer une discussion. Il laissait chacun libre de dire ce qu'il pensait, et puis ensuite rebondissait dessus, ou alors réfléchissait, que ce soit avec moi ou avec mes sœurs, sur les sens des discussions. Ça pouvait être des choses très futiles, comme des choses très profondes, notamment, moi, j'ai des souvenirs de discussions sur la peine de mort quand on était adolescent, où vraiment il m'expliquait qu'on ne devait jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, que c'était quelque chose de barbare, et que la justice, c'était se prémunir des réactions irréfléchies et spontanées.
Nicolas Cousy, l'un des enfants de Maître Olivier Cousy, il s'exprimait après l'une de ses sœurs, Sybille Cousy, et après Maître Sarah Saldman. Ils sont 12 candidats à la présidentielle des 10 et 24 avril prochains en France. Le président du Conseil constitutionnel a proclamé à la mi-journée la liste officielle des candidats. Il y a 4 femmes et 8 hommes dans l'ordre officiel tel que présenté dans une vidéo publiée peu avant midi. On trouve donc Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. La campagne officielle débutera le 28 mars prochain. Fin de cette édition, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Aurélie Gros, maire Les Républicains du Coudray-Monceau, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.